Avant de poursuivre mon cours sur l'étude du formulaire des ordres de paiement fiscaux, les entagia, qui sont, je le rappelle, les premiers textes bilingues arabo-grec, mis à part les protocoles, mais au contenu répétitif, et donc qui sont des témoignages tout à fait précieux et même uniques sur le multilinguisme mis en place par le nouveau régime. Avant de poursuivre l'étude de ce formulaire, je voudrais revenir sur le problème de l'erreur de nom dans le reçu d'Abdallah, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, vous vous souvenez que la version arabe parle d'un certain Istéphane qui pourrait rendre le nom grec Stéphanos, alors que la version grecque évoque un certain Christophoros. Donc il y a une différence entre la version grecque et la version arabe. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière édition de ce texte par Adolphe Grohmann, From the World of Arabic Papyri, publié au Caire en 1952. Mais en fait, il s'agit d'une erreur du savant allemand, erreur qu'il n'avait pourtant pas commise dans la première édition qu'il avait faite de ce texte en 1932, où il lit correctement Istufur, c'est-à-dire en fait l'équivalent de Christophoros. Alors, il est vrai que l'arabe, comme vous le savez, ne marquant pas la vocalisation, et les deux lettres Ra et Nun, sans les diacritiques qui ne sont pas notées à cette époque, peuvent se confondre. Et d'ailleurs, si vous regardez le papyrus, vous voyez que le nom est précisément très difficile à lire. L'écriture, l'encre est très pâle. Et donc, on peut comprendre les difficultés de lecture qu'ont pu éprouver les premiers éditeurs. Mais en fait, il est beaucoup plus satisfaisant, évidemment, d'éviter de faire commettre une faute au scribe. On notera au passage la difficulté qu'ont éprouvé les Arabes à rendre le son creux, c'est-à-dire chiro, de Christophoros, puisque cette séquence est purement et simplement omise dans la translittération arabe. Voilà, donc pas de faute commise par le scribe arabe dans ce papyrus. Alors revenons aux entagia. Je vous avais dit que le terme même est une relative innovation, puisque son sens est en rupture avec celui qui est le plus communément usité à l'époque byzantine. Il n'y a pas que le nom qui soit en rupture avec les usages byzantins, le formulaire aussi. Alors, pour illustrer ces documents, ces entagia arabo-grecs, j'ai choisi un exemple appartenant aux archives de Basileios, ou Basile, sur lesquelles je reviendrai, quoi qu'elles soient d'une vingtaine d'années postérieures aux plus anciens entagia bilingues, mais le formulaire est identique à ceux des premiers entagia qui nous sont néanmoins parvenus de façon beaucoup plus fragmentaire. Donc je préfère utiliser un papyrus en meilleur état pour vous montrer à quoi ressemblait le formulaire des entagia. Alors, c'est un exemple peu connu des papyrologues, car les précédentes éditions, celles de Becker en 1911 et celles de Grohmann dans le troisième volume de ses Arabic Papyri in the Egyptian Library de 1938, n'ont jamais été reprises dans le Sammelbuch des papyrologues. Alors, le Sammelbuch, je rappelle qu'il s'agit d'un recueil de tous les papyrus publiés en dehors des volumes d'édition de papyrus, c'est-à-dire dans les revues, dans les mélanges ou dans les actes de colloque. Donc ce texte n'a pas été repris dans le Sammelbuch des papyrologues ni intégré dans la Duke Data Bank of Documentary Papyri, c'est-à-dire la base de données de tous les papyrus documentaires grecs, et plus simplement grecs d'ailleurs maintenant, qui est accessible sur Internet. De plus, le papyrus ayant été déroulé intégralement, depuis, je suis en mesure de vous donner ici une édition plus complète. Alors, regardons ce texte. L'entagion est divisé en deux blocs textuels, le premier en arabe, le second en grec. Alors, je vous lis la traduction de ces deux blocs textuels. Je commence par l'arabe. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ceci est une lettre de Koura ibn Sharik, aux habitants de Shubra Adjia Binutia, du district d'Ishkao. Il vous incombe, pour la capitation de l'année 88, l'Hégire, nous sommes donc en 706-707, 37 dinars de compte, et Rachid l'a écrit en Safar, nom arabe, de l'année 91. Voilà pour ce qui est du texte arabe. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie grecque. Je vous lis la traduction. « Au nom de Dieu, Kora, fils de Zérik, je suis la prononciation ou, disons, la façon dont les noms arabes ont été translittérés en grec. Donc, au nom de Dieu, Kora, fils de Zérik, gouverneur, à vous, les ressortissants de l'Epoikion, c'est une agglomération, une petite agglomération, un village, un hameau, de Saint-Pinoution, du village d'Aphrodito. Il vous incombe, pour les impôts de la sixième indiction, soit l'an 88 selon les Arabes, nous dit le texte, 37 solidi, c'est-à-dire des sous d'or, de compte, 37 seulement, écrits au mois de Toth, nom de moi égyptien, de la huitième indiction. Donc vous voyez, texte écrit en deux blocs, arabe et grec. Dans un certain nombre de cas, l'une des deux parties n'est pas conservée. Nous avons un certain nombre d'intagia dont soit la partie arabe, soit la partie grecque n'a pas été préservée. Mais il semble bien qu'à partir des années 690, les intagia émis par le gouverneur ont été tous bilingues. Contrairement au reçu d'Abdallah, que j'ai remontré au début, les intagia, donc ce texte de 643, dont on a vu que la partie arabe est un ajout postérieur, sous le texte grec, le texte premier dans ces intagia est en arabe, immédiatement suivi du texte en grec. Cet ordre est évidemment très symbolique, puisqu'en établissant une hiérarchie visuelle, il affirme la suprématie de la langue des conquérants. Contrairement aussi au reçu d'Abdallah, on a affaire à deux parties qui sont de contenu à peu près identiques. Vous vous souvenez qu'il y avait de grosses différences dans le reçu d'Abdallah, puisque l'un était un vrai reçu et l'autre, je vous avais dit, était probablement une espèce de procès-verbal. Alors certes, il y a dans les intagia quelques variations entre les deux parties, mais elles sont très marginales. Ainsi, dans l'introduction du texte, ce qu'on appelle un prescrit, en arabe, il est formulé de cette façon. Ceci est une lettre de Koura ben Charik, alors qu'en grec, on a quelque chose de complètement différent. On a Koura, fils de Charik, enfin de Chirik, gouverneur, à vous, les ressortissants de tel endroit. La date, par ailleurs, est donnée uniquement par l'année égyrienne en arabe, alors que dans le texte grec, elle est donnée non seulement en année égyrienne, 88 selon les Arabes, mais aussi selon le calendrier égyptien, ou gréco-égyptien. On a donc, mis à part ces minimes différence, on a affaire à une véritable traduction. Mais dans quel sens ? L'étude du formulaire donnerait à penser que c'est le grec qui suit l'arabe. Le texte grec commence par, vous avez vu, une adaptation de la basmala arabe sous la forme en onomati touteou, au nom de Dieu, qui, quoique recevable par les chrétiens, n'était jamais employé par eux, tel quel dans des textes de l'époque byzantine. Ensuite, après le prescrit, de forme donc un tel à vous, humine un tel, avec une expression d'ailleurs qui est assez atypique, puisque dans les textes d'époque byzantine, on n'utilise jamais ce pronom personnel au datif, hein, humine. Donc après cela, on a deux types de formules exprimant l'ordre de contribution fiscale. Soit parasketé, c'est-à-dire fournissé, qui correspond à l'arabe fa à tout, fournissé, ou bien on a, comme c'est le cas dans l'exemple que vous avez à l'écran, elaken humine, c'est-à-dire il vous incombe ou il vous a été assigné, qui correspond à l'arabe fa inahu asabakum, il vous incombe. Donc c'est vraiment une traduction parfaite. Et ces deux verbes, moteur, parasketé ou elaken humine, sont suivis tous les deux par uper ou logo, qui introduit le titre fiscal, le type d'impôt hein, qu'on doit payer, et ensuite, évidemment, le contenu de la contribution exigée. Ici, il est question de 37 sous d'or ou 37 dinars dans la version arabe. Or, si le verbe banal, parasko, fournir, était utilisé dans les documents de l'époque byzantine, le verbe lankano, qui veut dire échoir, est une nouveauté. Auparavant, on pouvait le rencontrer dans des testaments, par exemple, où il exprimait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire la part qui revenait à tel héritier à la suite de la décision du testateur. Mais jamais le terme n'était utilisé pour désigner les impôts qu'un contribuable ou qu'un ensemble de contribuables devait payer. Le recours systématique qui fait l'administration arabe s'explique par le passage d'une fiscalité de quotité en usage à l'époque byzantine à une fiscalité désormais de répartition. Alors, dans la première, la fiscalité de quotité, on applique aux unités d'assiette un taux fixé à l'avance et modulé selon divers critères. Tandis que dans la seconde, hein, la fiscalité de répartition, le revenu total de l'impôt est déterminé à l'avance et réparti dans un second temps entre les contribuables. Et c'est cette répartition, justement, qu'exprime le verbe, enfin la formule, « elaken humine ». Alors, enfin, le contenu du document est résumé en grec dans la marge du document avec le nom de l'unité fiscale assignée et le montant, vous l'avez ici, hein, c'est à cet endroit-là, donc avec le montant de la contribution, et en bas, sous la forme d'un total qui était roulé et scellé d'un sceau. Alors, un sceau soit purement iconographique, soit épigraphique en arabe. Donc, pourquoi un sceau ? Bien justement, pour éviter toute retouche ou toute falsification du texte. Alors, je vous montre un exemple d'un autre ordre, s'il ne s'agit pas d'un entagion de gouverneur, mais c'est un entagion à un niveau beaucoup plus local, mais vous voyez le système du sceau ici, en fait, le total est là, et cette partie-là était, enroulée jusqu'ici, et scellée de ce sceau. Or, la pratique qui consiste à enrouler le bas d'un feuillet de papyrus et à le sceller indépendamment du reste du document est là encore complètement étrangère à l'Égypte byzantine. Elle rappelle les documents en double rédaction, comme les appellent les spécialistes de diplomatique en double expédition, de l'époque ptolémaïque. Donc nous sommes loin dans le passé. Le texte du contrat était alors rédigé en deux exemplaires sur la même page. Le premier texte écrit, celui du haut, est ensuite enroulé, hein, c'est le texte que vous avez ici, est ensuite enroulé et scellé. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la scriptura intérieure. Et il n'était ouvert qu'en cas de contestation. Comme dans nos intagia, à ceci près que dans ces derniers, c'est le bas du feuillet qui est scellé, pas le haut, la scriptura intérieure prévenait en principe toute possibilité de falsifier le second texte qui lui reste accessible, hein, celui de la scriptura extérieure. Mais cette pratique est abandonnée à la fin de l'époque hellénistique et ne se maintient en fait que pour des documents soumis aux règles du droit romain, ce qu'on appelle la testatio, et au Proche-Orient pour divers contrats appelés diplomata, justement documents doubles. On a ainsi une quinzaine de contrats grecs du IIIe siècle après Jésus-Christ provenant de Doura Europos. On a 23 diplomata en grec, araméen et nabatéen de l'archive de Babata, hein, en Judée. Et puis, on a aussi, nous sont parvenus, 6 pièces du Moyen Euphrate, publiées dans les papyrus Euphrate 1 et 2. Hein, vous en avez un exemple ici, avec la scriptura intérieure, qui est encore scellée. Alors là, c'est avec des ficelles, hein, vous la voyez, dans l'état de la découverte. Il est tentant, là encore, de conclure que l'usage de sceller le bas des intagia, comme d'ailleurs plus généralement l'utilisation très intensive qu'ont fait les arabo-musulmans du sceau, hein, on l'a vu avec ces documents qu'on appelle des sigilia, qui veut dire sceau en latin, il est tentant de conclure que cet usage a été repris par les arabo-musulmans aux provinces orientales qu'ils avaient conquises avant d'arriver en Égypte. Plus généralement, la comparaison des intagia bilingues de Nessana, hein, que je vous avais montré sur la carte la semaine dernière, avec ceux d'Égypte, qui sont, on l'a vu, postérieurs et qui sont globalement très semblables à leurs prédécesseurs palestiniens, conforte l'hypothèse d'une importation en Égypte, d'une diplomatique et d'un formulaire d'origine proche-orientale. Autrement dit, le texte grec de nos intagia d'Égypte suit fortement le texte de la partie arabe, et ou un formulaire que ceux-ci ont introduit en Égypte, même s'ils l'ont antérieurement emprunté à la pratique byzantine des provinces orientales. Ces intagias sont donc des productions écrites qui correspondent à une réalité fiscale nouvelle imposée par les Arabes, suivant un formulaire et une mise en page pour une part novateur, qui sont aussi imposés par les Arabes, quoique, je l'ai dit, ils aient pu l'emprunter à des modèles grecs, non égyptiens, et mettant en position supérieure l'arabe comme langue désormais de référence. Par l'injonction de leur contenu, hein, il s'agit d'ordre de paiement, elles affirment le pouvoir des nouveaux conquérants, tout en semblant traduire, par leur forme, une suprématie de l'arabe par rapport au grec. C'est en tout cas ce que les caractéristiques formelles de ces ordres de paiement voudraient nous faire croire. Mais la réalité est d'une certaine façon assez différente. Derrière la suprématie formelle de l'arabe qu'affichent les intagias se devine en fait une grande faiblesse, la forte dépendance de la nouvelle administration arabe vis-à-vis de l'expertise grecque. Cette forte dépendance se lie à travers plusieurs indices, si nous reprenons nos intagia. Tout d'abord, à la partie scellée, justement. Revenons-y. On se souvient que le montant de la contribution est récapitulé dans la zone inférieure du document qui est ensuite scellé, hein, ce qui permet de garantir cette information capitale, je le répète, contre toute forme de modification frauduleuse, qui pourrait être introduit dans le texte principal. Cette partie du document sert donc, on peut dire, de référence en cas de contestation. Or, elle est écrite dans les intagia d'Égypte en grec et non en arabe. Et ce, d'ailleurs, contrairement aux intagia de Nessana, où l'on trouve les récapitulations scellées dans les deux langues. Hein, vous l'avez ici, hein, en grec. Là, il s'agit de maudits de blé et de setiers d'huile, hein, 70. Et vous l'avez aussi en arabe, hein, sabaïn, donc 70, muide ou mauduit de blé. Là, il y a une faute. Et de même, en 70, et la même chose en huile. Je vous montre d'ailleurs cette photo parce qu'elle vous permet de voir, même si la photo n'est pas complète, comment se présentait la scriptura intérieure, hein, la partie scellée, avant le déroulement du papyrus. Donc revenons aux intagas égyptiens. Là, la récapitulation scellée est uniquement en grec. C'est un détail dont on n'a pas tiré toutes les conséquences par le passé et qui montre que si l'arabe est la langue première dans le sens spatial du terme, c'est le grec qui prime en tant qu'il sert de référence. Alors le second indice réside dans un petit détail, mais c'est toujours dans les détails que se nichent les problèmes, dans la différence de date de rédaction entre la partie arabe et la partie grecque. Je vous remets le texte. Vous avez vu que chacune des parties se termine par une date. Dans l'exemple que j'ai choisi, eh bien, vous avez le texte arabe est daté du mois de Safar de l'année 91, soit, si l'on convertit le calendrier lunaire dans notre calendrier, ça donne le 9 décembre 709, entre le 9 décembre 709 et le 7 janvier 710. Alors que le texte grec, lui, est daté du mois de Tot, de la huitième indiction, c'est-à-dire entre le 29 août et le 27 septembre 709. Autrement dit, le texte grec a été rédigé environ 3 mois et demi avant le texte arabe. On observe un décalage dans le même sens, dans d'autres intagia trouvés à Aphrodito, qui est le corpus le plus volumineux d'intagia bilingue dont nous disposions. Alors, Lionel Casson, en 1938, avait proposé de mettre ce décalage sur le compte d'une confusion de la part du scribe grec ayant cherché à convertir la date écrite en arabe entre le calendrier lunaire des Arabes et le calendrier solaire des Gréco-Égyptiens. Mais l'explication ne tient pas. On ne comprend pas qu'ils aient fait ce type d'erreur puisqu'il s'agit en fait de la date de rédaction qui ne nécessitait pas une conversion. Aussi, comme le propose avec beaucoup plus de vraisemblance, Hélène Cadet dans un article qu'elle a publié en 1967 dans les recherches de papyrologie, le décalage pourrait plutôt suggérer l'existence d'une double administration et correspondre au retard de transmission des documents entre un bureau grec et un bureau arabe de la chancellerie de Fustat. Cela suggère que les intagas étaient d'abord rédigés dans le service grec de l'administration centrale avant d'être transmis à un service arabophone qui en assurait la traduction. Il semble que les deux versions aient été ensuite recopiées sur un feuillet de papyrus, l'une au-dessus de l'autre, comme le prouve l'intagion que vous avez à l'écran, notre intagion d'Aphrodito. Le texte grec, quoique d'une date antérieure, a bien été écrit après le texte arabe, puisque la première ligne, comme vous le voyez, suit immédiatement la fin du texte arabe, ce qui n'aurait pas été possible si l'arabe avait été écrit en second. Les originaux donc devaient être archivés à Fustat, alors que la copie avec le texte arabe suivi du texte grec était envoyée au duc ou au pagarque. Ainsi, le texte grec, qui apparaissait de prime abord comme la traduction du texte arabe, était bien en fait le texte premier établi dans les services hellénophones de l'administration centrale, même si, je le répète, ceci, on peut suivre des directives imposées par les Arabes, notamment en matière de diplomatie, comme nous l'avons vu. Ce sont donc les Grecs qui tenaient le diwan. Alors, je rappelle que le diwan désigne un registre et puis par métonymie, le bureau qui gère le registre, hein, qui a donné, par une série d'évolutions, à partir du mot désignant le Conseil ottoman, notre mot français « divan ». Il y avait principalement le Diwan el-Jund, le premier à avoir été créé, qui recensait le peuple de Médine, les forces qui avaient participé aux conquêtes et ceux qui avaient émigré pour rejoindre les garnisons provinciales avec leurs familles. Et il y avait le Diwan el-Kharaj, qui prit sous les Omeyyades une importance centrale, qui recensait les impositions et les levées fiscales. Selon la Vulgate, qui s'appuie sur les historiens arabes anciens, le bureau des affaires militaires, le Diwan el-Jund, aurait été géré en arabe dès le début de la conquête, alors que, comme vous vous en souvenez, le bureau des affaires fiscales, le Diwan el-Kharaj, aurait été arabisé sous le calife Abdelmalik ibn Marwan, donc 685-705. Les papyrus en général, et nos Zentagia en particulier, montrent que cette arabisation est à relativiser très fortement, puisqu'encore au début du 7e siècle, la date de l'Intagone que je vous ai montrée, la date des Zentagia de Koura ben Sharik provenant des archives de Basileios, eh bien, les fonctionnaires hellénophones avaient la main par rapport aux fonctionnaires arabophones. Certaines sources littéraires confirment qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre le schéma trop linéaire et simpliste d'un califat qui s'arabise brutalement à la fin du 7e siècle sous le réformateur Abdelmalik. Ainsi, selon Ibn el-Hakam, Maslama ibn Mukhalad, gouverneur d'Égypte de 667 à 682 sous le calife Muawiya, avait nommé le chrétien, donc hellénophone, Antonios. Le texte arabe nous dit Athanas, il s'agit du nom Antonios, Antoine. Il l'avait nommé comme chef des affaires militaires et fiscal, autrement dit, à la tête du Diwan el-Jund et du Diwan el-Kharaj, qu'il devait gérer nécessairement en grec. Plus tard, le gouverneur d'Égypte, Abdelaziz ibn Marwan, 685-705, plaça à la tête du Diwan les Grecs Athanasios et Isaac, nous dit l'histoire des patriarches d'Alexandrie, cette source que j'ai souvent eu l'occasion d'utiliser concernant la conquête perse et aussi pour la relation de la conquête arabe. Alors je vous lis le texte. Abdelaziz avait deux secrétaires dignes de confiance et orthodoxes. Alors orthodoxe, évidemment, il faut comprendre ici anti-chalcédonien, c'est-à-dire appartenant à l'église monophysite d'Égypte. Donc deux secrétaires dignes de confiance et orthodoxes qu'il plaça à la tête de tout le pays de l'Égypte, de Mariout, Malakia et Pentapolis, qui est en Libye, qui est la Libye. L'un d'entre eux s'appelait Athanasios, donc Athinas dans le texte arabe. Et il avait trois fils et était originaire d'Édesse, au pays de Syrie. Retenez ce détail, son origine n'est probablement pas une coïncidence vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la part importante des provinces syro-palestiniennes dans la pratique administrative des arabo-musulmans en Égypte. Tandis que le nom de l'autre était Isaac, et lui et ses deux fils étaient natifs de Shubratani, d'une bonne famille orthodoxe. Et quand Abdelaziz devient gouverneur d'Égypte, le père patriarche écrivit d'Alexandrie à Misr, c'est-à-dire Fustat, aux deux scribes qui présidaient le divan, le diwan, pour leur faire savoir ce qui avait été fait concernant le sceau, etc. Bon, je vous passe l'histoire. Cette information, donc Abdelaziz aurait nommé de grec à la tête de son administration, est confirmée par l'historien Al-Kindi, mort en 961 dans son Wulat Misr. Il se trouve que nous sommes en mesure Ce n'est pas toujours le cas, mais là, nous sommes en mesure de recouper les données littéraires, en l'occurrence de l'histoire des patriarches d'Alexandrie et d'Al-Kindi, avec celle des papyrus. Les deux responsables du diwan dont il parle, Isaac et Athanasios, apparaissent dans une très intéressante comptabilité grecque relative à la dapanée, c'est-à-dire, vous vous souvenez, aux contributions pour l'entretien de fonctionnaires du gouverneur Abdelaziz. Il s'agit d'un papyrus de Londres. Malheureusement, le texte ne ressort pas sur l'écran, mais ce n'est pas grave, je vais vous donner la traduction de ce texte. Il s'agit donc d'un registre où apparaissent un certain nombre de personnages pour lesquels les contribuables doivent payer des impôts. Il est question d'un apacyrus notarios, c'est-à-dire secrétaire d'Isaac, le glorieux cartulaire, nous dit le texte, qui est affecté, il s'agit donc d'apacyr, qui est affecté aux répartitions fiscales de la Haute-Égypte. Ensuite, il est question d'un certain Zacharie, lui aussi notaire, du même personnage, c'est-à-dire d'Isaac, qui lui est affecté à la fiscalité de la Basse-Égypte. Et là, vous retrouvez cette division du pays qui est tout à fait neuve par rapport à l'époque byzantine. Il est ensuite question de notaires, d'une vingtaine de notaires, de 20 notaires, nous dit le texte, d'Athanase, le glorieux cartulaire. Ensuite, on a affaire à un Souleim, fils de Siméon, notaire arabe, nous dit le texte, notaire arabe du gouverneur. Après, il est question de 44 notaires, toujours du même Athanase, le glorieux cartulaire, etc. Et si je saute quelques lignes, à nouveau, on voit apparaître un certain Étienne ou Stéphane, notaire d'Athanase, le glorieux cartulaire, etc. Donc vous voyez qu'on retrouve nos deux personnages, Isaac et Athanase, qui sont tous les deux désignés comme cartulaires, cartularios en grec, qu'on pourrait traduire dans un français plus moderne par chef de bureau, et ils portent le titre assez élevé de d'endoxotatos en grec, c'est-à-dire gloriosissimus en latin, très glorieux, et ils ont sous leurs ordres un nombre important de notarioi, hein, qui ne veut pas dire notaire, mais qui signifie secrétaire, c'est-à-dire à l'origine des tachygraphes, des gens qui prennent des notes, hein, notarioi. Et il est d'ailleurs question, dans ce passage, je vous l'ai dit, de 20 notarioi affectés à l'un d'entre eux et de 44 affectés aussi à Athanase. L'administration, entre 685 et 705, puisque ce texte date du gouverneur Abdelaziz, était donc bien sous la direction d'Hellénophone. Ils étaient aidés par des secrétaires de langue arabe que les papyrus d'Aphrodite mentionnent à plusieurs reprises dans les registres fiscaux, avec l'expression arabicoi notarioi, hein, par opposition au graicoi notarioi, notaire grec. Mais si l'on reprend le papyrus dont je viens de parler, hein, le papyrus de Londres 1447, on a l'impression d'un déséquilibre numérique entre les secrétaires grecs et les secrétaires arabes aux dépens de ces derniers. Ainsi, l'administration centrale de l'Égypte a été, jusque dans les années 710, pilotée par des hellénophones. Si les documents administratifs s'arabisent, on l'a vu dans les années 680, cela reste une arabisation formelle qui a pu plus pour finalité d'affirmer les prétentions du nouvel État que de chercher à imposer l'arabe. Il n'en reste pas moins vrai que cette administration repose sur une logique nouvelle. Elle est au service d'un système fiscal en rupture avec celui qui prévalait précédemment. Mais si l'on sort des sphères de l'administration centrale, qu'en était-il dans le reste du pays ? Les papyrus du 7e siècle, contenant de l'arabe, se font beaucoup plus rare quand on sort du domaine administratif. Nous n'avons pu, vous vous souvenez, identifier que 8 textes non administratifs contenant de l'arabe, 5 textes juridiques et 3 lettres privées, et encore sont-ils souvent de datation incertaine et, pour certains d'entre eux, pourraient probablement être assignés au 8e siècle. Les textes juridiques, autrement dit, quand je parle de textes juridiques, je parle de transactions passées entre des personnes privées, selon des formes juridiques reconnues, et donc transactions qui peuvent faire l'objet, en cas de différend, d'une procédure judiciaire. Donc les textes juridiques sont tous des documents relatifs à des créances, soit des reconnaissances de dettes qui sont majoritaires. D'ailleurs, ces papyrus, en fait, il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette, mais d'une série de reconnaissances de dettes, ici aussi. Donc, soit des reconnaissances de dettes, soit des reçus. C'est le cas de celui-ci, qui est une quittance d'Abdallah ibn Umeis à Isidore, on l'avait déjà vu. Ou bien celui-là, qui semble être aussi la quittance pour un paiement ou une livraison. On peut donc, on peut s'étonner de ne trouver aucune autre forme de transaction que des transactions autour de la créance. On aurait pu avoir aussi des actes de vente, des contrats de mariage, ce genre de choses. On n'en a aucune trace pour les 60 premières années de la conquête. Alors, outre les conditions de vie des premières décennies de la conquête, qui expliquent pour une part l'absence d'autres formes contractuelles, j'aurai l'occasion d'y revenir, notre documentation, en fait, est le reflet d'un précepte coranique qui enjoint, en cas de dette, de recourir à l'écrit. Et je vous montre le texte, il s'agit de la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, le verset 282 que je vous lis dans la traduction du Coran de Denise Masson. « Ô vous qui croyez, écrivez la dette que vous contractez et qui est payable à une échéance déterminée. Qu'un écrivain choisi par vous l'écrive honnêtement, qu'aucun écrivain ne refuse de l'écrire comme Dieu le lui a enseigné, qu'il écrive ce que le débiteur dicte, qu'il craigne son Seigneur, qu'il ne retranche rien de la dette. Si le débiteur est fou ou débile, s'il ne peut dicter lui-même, que son représentant dicte honnêtement, demandez le témoignage de 2 témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas 2 hommes, choisissez 1 homme et 2 femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. Si l'une des 2 femmes se trompe, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Que les témoins ne se dérobent pas lorsqu'ils sont appelés à témoigner. N'hésitez pas, il recommence, il insiste à nouveau, n'hésitez pas à écrire cette dette, petite ou grande, en fixant son échéance. Voilà ce qui est plus juste devant Dieu, ce qui donne plus de valeur au témoignage et ce qui est le plus apte à vous ôter toute espèce de doute, à moins qu'il ne s'agisse d'un marché que vous concluez immédiatement entre vous. Il n'y a pas alors, dans ce cas-là, il n'y a pas alors de faute à vous reprocher si vous ne l'inscrivez pas. Appelez des témoins lorsque vous vous livrez à des transactions. N'exercez de violence ni sur l'écrivain ni sur le témoin. Si vous le faisiez, vous montreriez votre perversité. Craignez Dieu. Dieu vous instruit. Dieu connaît toutes choses. Donc, vous voyez, ce précepte dit bien qu'en matière de créance, il ne faut pas hésiter à avoir recours à l'écrit. Aussi, les fidèles avaient-ils pris coutume de confier à l'écriture, comme nous le dit Youssef Rahib, dans les Annales islamologiques de 2007, avait pris l'habitude, la coutume de confier à l'écriture les dettes contractées, alors qu'il négligeait de le faire pour les autres actes du quotidien, même d'importance, qui, eux, restaient oraux. Il laissait aux témoins, comme vous le voyez avec le texte de cette sourate, le soin d'en attester l'existence. Quant aux lettres privées, un des genres, je le rappelle, le plus prolifique, un des genres documentaires le plus prolifique en grec et en copte, on peut être a priori surpris de n'en avoir que trois en arabe. Je vous rappelle à l'écran. Et encore, l'une pourrait tout aussi bien être du 8e siècle. C'est le cas de la dernière. Plutôt, c'est le cas de la seconde. Ce sont, semble-t-il, toutes des lettres à caractère commercial. C'est assurément le cas de celle-là, la première, publiée par Werner Diem, et aussi celle publiée par Youssef Rahib, où il est question, vous vous souvenez, j'avais montré une photo de cette lettre qui était écrite sur un parchemin à l'origine provenant d'un manuscrit de l'Exode en latin, où il est question de l'achat d'articles. Autrement dit, plutôt, il est question de la vente d'outre de vin cuit. Autrement dit, nous n'avons pas affaire à des lettres, disons, familiales, mais des lettres professionnelles qui nous présentent des arabo-musulmans dans leurs activités commerciales. Ainsi, je dirais, la sphère purement privée se dérobe. Et même dans ces documents de l'intime que sont les lettres privées, c'est la face sociale, la face publique des arabo-musulmans qui transparaît seule. Alors qu'ils soient juridiques ou épistolaires, ces textes de nature privée sont non seulement peu nombreux, je le répète, mais aussi, je l'ai déjà souligné, monolingues. Contrairement aux textes administratifs, ils sont écrits exclusivement en arabe. Cela tient au fait qu'ils semblent, pour autant que leur état nous permet d'en juger, ne concerner que des arabo-musulmans, à l'exception, vous vous souvenez, de la quittance arabe adressée par Abdallah ibn Umeis à Isidore et sa femme. Et dans ce cas, justement, une courte annotation grecque a été ajoutée en haut du document. Probablement à l'attention d'Isidore, qui était de langue grecque. En bref, ces textes témoignent d'une pratique de l'arabe qui se cantonne à des cercles exclusivement arabo-musulmans. L'arabisation n'a pas encore pénétré la société égyptienne et les arabo-musulmans sont encore peu visibles dans le pays, étant confinés dans la nouvelle capitale, Foustat, ou dans des villes de garnison. On saisit là une différence fondamentale avec la conquête gréco-macédonienne d'Alexandre, 1000 ans auparavant. Les soldats s'étaient vite répandus dans la Kora, le pays, attributaire de l'eau de terre qu'on appelle des cléroïs, qui les fixaient à la campagne, les amenaient à participer à la vie agricole du pays et ainsi à contribuer à la mixité sociale qui est le vecteur numéro un de l'hellénisation. Ce n'est pas le cas avec les premières générations arabo-musulmanes et probablement à la suite d'une décision que le calife Oumar Ier aurait prise dès l'an 20 de l'Hégire, en 640-641, de ne pas accorder aux soldats, et cela concerne les soldats qui sont en Palestine, des lots de terre, mais de les rendre bénéficiaires d'impôts en numéraire, atta, ou en nature, risque. C'était une façon non seulement de ne pas se mettre à dos la population, mais aussi de maintenir les arabo-musulmans dans un rôle militaire indispensable pour assurer les acquis de la conquête et poursuivre cette conquête ailleurs, en préservant l'esprit de la culture arabe de toute assimilation qui l'aurait altérée. Selon les termes mêmes d'Oumar, je cite, « Dieu a placé la subsistance de cette communauté dans le fer des lances. S'ils cultivent la terre, ils deviendront comme les autres. » Cette phrase est rapportée par Ibn Rajab. Elle est peut-être apocryphe dans la mesure où ces paroles sont aussi attribuées au prophète. Pour ce problème, je vous renvoie à l'article de Kister, Land, Property and Jihad, A Discussion of some early traditions, publié dans le Journal of Economic and Social History of the Orient de 1991. Il semble aussi, si l'on en croit Ibn Abd al-Hakam, mort en 871, que les traités que les conquérants ont signés avec les Égyptiens leur aient interdit d'effectuer des confiscations de terres, seule façon pour mettre massivement les nouveaux conquérants à la tête de domaines. Que ce soit pour des raisons culturelles, militaires ou juridiques, c'est un fait que les arabo-musulmans sont avant tout dans les villes de garnison et de ce fait, à l'exception évidemment des agents de l'État arabe, ne sont pas très présents dans les documents grecs qui ont été trouvés dans le pays d'Égypte. De même qu'inversement, les gréco-égyptiens sont presque complètement absents des quelques lettres privées arabes du 1er siècle et continueront à l'être au siècle suivant, comme l'a constaté Khaled Younis dans le travail doctoral qu'il a récemment, très récemment, consacré en 2013 aux lettres arabes sur papyrus. Il s'agit d'une thèse soutenue à l'université de Leiden, « Joy and Sorrow in Early Muslim Egypt, Arabic Papyrus Letters, Text and Context ». De ce point de vue, la documentation arabe, comme la documentation grecque, est assez semblable à ce que nous avions constaté, vous vous souvenez, pour l'époque sassanide. Si l'on doit tirer un bilan des deux premières générations de l'après-conquête en matière d'arabisation, on est obligé de reconnaître que celle-ci fut assez limitée. Peu de documents arabes ou arabo-grecs nous sont parvenus pour les 60 premières années du régime arabo-musulman en Égypte. Cette paucité tient d'abord à ce que la population arabophone, avant tout des militaires qui pouvaient être aussi accompagnés de leur famille, reste cantonnée dans certains centres urbains ou militaires pour lesquels nous n'avons pas de documentation et n'a pas cherché ou, plus exactement, n'a pas été autorisée à se répandre dans le pays et à s'installer dans les campagnes. Cette absence de brassage se traduit par une absence de l'autre, dans la documentation arabe, d'un côté, où les gréco-égyptiens n'apparaissent pas, et dans celle de langue grecque ou copte, où les arabo-musulmans se font très, très discrets. Mais l'autre raison du petit nombre de textes arabes est due à la politique linguistique des nouveaux arrivants. S'ils ont réformé certaines institutions, ils n'ont pas cherché à y imposer l'arabe, et se sont appuyés sur le grec et sur une élite d'hellénophones qui a continué à gérer les affaires publiques. Les services centraux reposaient encore largement, je vous l'ai dit, sur l'expertise grecque, tandis que les hauts fonctionnaires locaux étaient toujours des gréco-égyptiens. Dans les décennies qui ont suivi la conquête, les arabo-musulmans considéraient donc le grec comme un compromis acceptable, pour reprendre l'expression de Federico Morelli. Il faut attendre 693-694, sous le gouvernorat d'Abdelaziz ibn Marwan, pour que l'arabe fasse son apparition dans les textes administratifs, et ce, avant la date de l'arabisation de l'administration égyptienne, qui, selon les sources littéraires, aurait été l'œuvre du successeur d'Abdelaziz, c'est-à-dire Abdallah Ibn Abdelmalik. Mais l'arabe y est pour l'instant toujours accompagné d'une version grecque. Si cette dernière semble avoir été première dans l'élaboration des documents, du fait d'une administration centrale encore très fortement grecque, elle n'en est pas moins précédée de la version arabe qui, malgré son manque total de fonctionnalité dans le processus fiscal, puisque les instances locales ne la comprennent pas, est dotée d'une valeur symbolique. L'occupant entend montrer par là que le régime est arabe. Mais on est encore bien loin d'une politique d'arabisation agressive, contrairement à ce que les récits des chroniqueurs arabes pourraient nous le laisser croire. On notera, par exemple, dans les documents bilingues de cette période et du siècle suivant, on notera l'atténuation des formules islamiques dans la traduction grecque des invocations initiales. La basmala, qui est systématique dans les textes arabes, la basmala, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, est réduite à une formule beaucoup plus neutre en grec, qui est au nom de Dieu, en onomati touteou, qui est tout à fait acceptable pour un chrétien. De même, on renonce à traduire la shahada ou profession de foi islamique, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed Mahomet est son messager. Ce qui pourrait dénoter une volonté de ne pas froisser ou de ne froisser ni l'orgueil linguistique des gréco-égyptiens, ni les convictions religieuses du pays conquis. Cette politique très ouverte des arabo-musulmans à l'égard du grec tient avant tout du pragmatisme. Être compréhensible et ne pas contrer les habitudes linguistiques des populations. Ce pragmatisme, d'ailleurs, est revendiqué clairement dans une directive de 698 ou de 713, là encore, on n'a pas de date absolue, directive qui pourrait émaner, selon son second éditeur, le grand papyrologue Ulrich Wilken, du calife en personne, et qui se conclut à la ligne 7 et 8 par la phrase suivante « Et pour que ce soit clair, nous avons eu recours à ce présent sigillion écrit en lettres arabes et en lettres grecques, pour que cela soit clair. » Cette politique d'ouverture linguistique est aussi probablement motivée par l'expérience administrative qui fut la leur avant la conquête de l'Égypte. La conquête des provinces syro-palestiniennes, les ayant confrontés assez vite aux Grecs, à la bureaucratie de langue grecque, la bureaucratie hellénophone, dont ils se sont accommodés et auxquels ils se sont accoutumés, eh bien, ils auraient décidé, une fois arrivés en Égypte, de maintenir cette langue qui leur était familière, d'autant que l'autre langue locale, le copte, leur était, elle, totalement inconnue. Cette familiarité avec la pratique linguistique et administrative syro-palestinienne expliquerait qu'un certain nombre d'innovations lexicales, formulaires ou diplomatiques qui s'observent dans les documents administratifs, dont je vous ai parlé la semaine dernière et cette semaine, aient été empruntées à la pratique bureaucratique de ces régions et introduites en Égypte. Donc telle fut la politique que les arabo-musulmans suivirent avant d'être en mesure, bien plus tard, d'imposer l'arabe dans tous les usages que le grec remplissait sans que cela soit au détriment de la bonne administration de ce territoire. Aussi, si le copte a survécu au grec, ça nous le verrons l'année prochaine, est-ce peut-être paradoxalement parce qu'il est resté à l'écart de ce jeu d'influence qui se jouait entre le grec d'un côté et l'arabe de l'autre, arabe qui a fini par l'emporter. La situation va changer dans la première moitié du 8e siècle, qui est une période charnière dans le processus d'arabisation de l'Égypte, où se joue le renversement des rapports entre grec et arabe au profit de ce dernier, que l'époque abbasside verra triompher de façon irréversible. Nous avons, pour les 30 premières décennies du 8e siècle, un ensemble de papyrus tout à fait exceptionnel par son volume et par les informations qu'il nous livre sur l'usage des langues au milieu de l'époque omeyyade. Il a été découvert en 1901 dans le village de Koumichkao, en Moyenne-Égypte, alors que des villageois étaient en train de construire une tombe à la bordure du cimetière musulman. Ils mirent au jour une masse impressionnante de papyrus grecs, coptes et arabes. Les récits de l'époque nous parlent de 2 mètres cubes de papyrus, vous vous rendez compte, qu'ils se sont immédiatement partagés avant que la nouvelle ne commence à attirer les marchands d'antiquités. L'un d'eux en avertit les autorités qui dépêchèrent des policiers afin de confisquer les papyrus. ils découvrirent en fait que les papyrus avaient tous disparu. Les détenteurs les plus timorés, de peur d'avoir maille à partir avec la police, avaient brûlé leur butin, malheureusement. Les autres attendirent le départ des policiers et vendirent leur part à des marchands. Alors Gaston Maspero, qui était le chef du service des antiquités d'Égypte, hein, c'était l'époque où le service des antiquités était tenu par des Français, Gaston Maspero envoya James Edward Quibell, qui fit des fouilles qui ne donnèrent pas beaucoup de résultats puisqu'il ne trouva que 3 misérables papyrus. En attendant, les papyrus vendus partirent au Caire et furent proposés ensuite à des collections européennes. Alors, le plus gros a été acquis par le British Museum et c'est Harold Bell qui en publia la partie grecque dans le 4e volume des papyrus de Londres. C'est peut-être le plus gros volume de papyrus jamais édité. Il fait 648 pages. Et je dirais que c'est en tout cas peut-être celui qui a nécessité le plus de travail dans l'histoire de la papyrologie, ou en tout cas le plus d'abnégation et d'assaise, tant la matière y est austère et tant ces papyrus sont extrêmement difficiles à déchiffrer du fait de leur, non seulement de leur taille, mais aussi de la prolifération d'abréviations qui en empêche souvent une lecture facile. Les papyrus coptes furent édités dans le même volume par Walter Crum, tandis que ceux achetés par le musée Pushkin étaient édités par Jahnstedt en 1959 dans ce qu'on appelle les papyrus coptes de Moscou, P. Moscou copte. Les papyrus arabes furent acquis par diverses collections et publiés entre autres par quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, Karl Heinrich Becker, notamment donc dans les papyrus Schott-Reinhardt, le premier volume, que nous autres papyrologues nous appelons les papyrus, les P. Heidelberg arabes, et puis aussi par Nabia Abbott dans The Kura Papyri from Aphrodite in the Oriental Institute, publié à Chicago en 1938, hein, plus communément appelé P. Kura. Tous ces papyrus constituent les archives de Basileios, Basile, qui fut pagarque. Alors en grec, le terme qui est utilisé en règle générale, c'est dioikétès, beaucoup plus rarement pagarkos, mais par commodité, je continuerai à l'appeler pagarque. En arabe, le terme, c'est sahib al-kura, donc préposé hein, du district. Et donc Basile était pagarque d'Aphrodite, que vous avez vu tout à l'heure sur la carte. Alors, il s'agit donc des archives de Basileios d'Aphrodite, pagarque d'Aphrodite, quoique ces archives soient aussi connues sous l'appellation impropre de papyrus de Kura Ben Sharik, du nom du gouverneur en fonction de 709 à 714, sous lequel le noyau le plus important de ces archives a été rédigé et qui est lui-même l'auteur d'un certain nombre de textes dont le pagarque Basileios était le destinataire. Mais en fait, il vaut mieux renoncer à cette appellation de papyrus de Kura Ben Sharik. Il s'agit bien des archives de Basileios, pagarque d'Aphrodite, ou Dioikétès, Dioset d'Aphrodite. Ce sont les plus grosses archives identifiées pour le 8e siècle. La plupart de ces textes se concentrent sur les années 709-710, donc très peu de temps, tandis que l'ensemble s'échelonne de 701-702 jusqu'à au moins 721. Et parce qu'elles sont à l'interface du pouvoir central et des populations villageoises, et du fait de la diversité des langues qui sont employées, ce sont elles, ces archives, qui nous permettent de saisir le mieux la position qu'occupe l'arabe sur l'échiquier linguistique de l'Égypte au tout début du 8e siècle. Si elles témoignent de nombreuses continuités par rapport à la situation que nous avons déjà décrite pour la seconde moitié du 7e siècle, nous n'en voyons pas moins émerger certaines nouveautés, mais avant de les dégager, il faut examiner un petit peu ce que ces archives nous disent plus généralement sur les rapports respectifs entre les 3 langues de l'époque, l'arabe, le grec et le copte. Je garderai ça pour la semaine prochaine. Je vous remercie.